autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour, bienvenue. Les Alliés auraient-ils gagné la guerre sans l'aide d'Alan Turing ? En 1938, le mathématicien et logicien est recruté par l'armée britannique pour déchiffrer les messages de la marine allemande et casser le code de la redoutable machine Enigma. Franc-tireur de la recherche, Turing est aujourd'hui considéré comme le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Mais ses travaux, qui forment un ensemble très cohérent, portent aussi sur les mathématiques pures et la morphogénèse, la naissance des formes. Génie solitaire, marathonien, Alan Turing a été poursuivi par la justice britannique et condamné pour homosexualité. Il a préféré la castration chimique à la prison. Il est mort en 1954 à l'âge de 42 ans après avoir mangé une pomme empoisonnée au cyanure. La reine Elisabeth II l'a gracié à titre posthume en 2013, un hommage bien tardif. Autour de la question « Pourquoi Alan Turing ?», la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Jean Lassaigle.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS et à l'EHESS et vous êtes l'auteur d'une biographie intellectuelle de Turing intitulée Sobrement Turing, parue aux Belles Lettres en 2003. Et vu à côté de vous, ou en face de vous plutôt, Pierre Mouniécun, bonjour.
Bonjour Sophie Joubert.
Vous êtes historien, également chargé de recherche au CNRS et vous revenez vous en deuxième semaine puisque on vous avait entendu récemment pour parler de la science des années 60. Vous avez conçu en 2012 une exposition sur Alan Turing à l'occasion du centenaire de sa naissance, qui était intitulé « Alan Turing, du langage formel aux formes vivantes » et vous menez une recherche sur les relations entre la logique et l'informatique. Alors la vie d'Alan Turing a inspiré plusieurs films, mais le dernier, « The Imitation Game » de Morten Tildum avec Benedict Cumberbatch, est sorti en salle le 28 janvier.
Que faisiez-vous pendant la guerre ? Vous êtes bien attentif ?
Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté.
C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques.
Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
Laissez-moi essayer, comme ça nous en sommes sûrs.
Messieurs, je vous présente Alan Turing.
Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir.
Vous deviez être populaire à l'école.
On manque d'effectifs.
Eh bien, nous allons recruter du monde.
Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème.
C'est possible, moi ?
Non, moi, il m'en faut 8.
5 minutes et 34 secondes.
Vous avez dit moins de 6.
Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant.
Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie.
Avez-vous déchiffré le moindre message allemand ?
Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là !
Notre patience a atteint ses limites.
Jean Lassaigle, Pierre Mouniécun, vous avez bien sûr vu ce film, The Imitation Game. Un mot de commentaire ? C'est un biopic assez académique, au fond, sur la vie de Turing ?
Oui, assez académique, assez hollywoodien aussi, je dirais, sauf pour la fin, puisque la fin se termine mal et qu'un film hollywoodien se doit de bien se terminer. Pour quelqu'un qui ne sait rien de la vie de Alan Turing, il apprend des choses. Je suis pas sûr que ce soit très fidèle à qui il était et à un certain nombre d'événements qui se sont déroulés au cours de sa vie. Mais enfin, on apprend des choses.
Pierre Mouniécun, il y a des erreurs historiques dans ce film ?
Alors, je serais moins diplomatique que Jean.
Rapprochez-vous du micro.
Parce que, disons, quand on aborde un sujet aussi beau que Turing, un réalisateur de film a le choix entre deux options. Soit il essaye de présenter toute la richesse de l'œuvre et de la vie de quelqu'un comme Turing et il fait confiance au public pour s'élever, pour se laisser entraîner par ce sujet magnifique. Soit il capitule devant les difficultés et il fait un film, bon d'accord, qui est bien ficelé, qui est très bien joué, mais qui tombe dans tous les clichés, tous les poncifs du savant fou, de l'inventeur solitaire qui construit une machine incompréhensible au fond d'un garage. Et puis il y a pire. La principale critique que je ferai au film, c'est qu'il tue pour la deuxième fois Alan Turing. Il y a une scène qui est... alors. On parle pas d'erreur sur les boutons d'uniforme ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Mais il y a une scène où on présente Turing comme acceptant de garder le silence sur un espion qu'il a découvert dans le centre de cryptanalyse de Bletchley Park, parce que celui-ci le menace de dévoiler son homosexualité. Or, d'une part, l'homosexualité de Turing n'était pas un mystère, il s'en cachait pas, et Bletchley Park, franchement, tout le monde s'en fichait. L'important, c'était de gagner la guerre.
Alors, on va revenir sur Bletchley Park.
Ce qui est grave, c'est de présenter Turing comme acceptant par lâcheté de couvrir un espion, donc de vraiment une trahison, et de trahir à cause de son homosexualité. En d'autres termes, cette scène du film revient exactement aux présupposés qui ont conduit à la condamnation de Turing.
Alors, on va s'éloigner de ce film, mais seulement, j'aimerais, Jean Lassay, que vous m'expliquiez ce titre, The Imitation Game, le jeu de l'imitation. Qu'est-ce que c'est ce jeu de l'imitation? Alors, chez Turing?
Le jeu de l'imitation, c'est un jeu que Turing a inventé et dont il a exposé les règles dans son seul article de philosophie qui date de 1950, qui a été publié dans une revue extrêmement célèbre qui s'appelle Mind et qui existe encore. Et Turing dit qu'il faut faire l'expérience suivante. Vous mettez un interrogateur dans une pièce que vous séparez de deux joueurs, un homme et une femme qui sont dans une autre pièce, et les seuls moyens de communication entre les deux pièces sont, disons, une imprimante. Et l'interrogateur doit poser des questions aux deux joueurs et réussir à deviner qui est l'homme, qui est la femme. Au bout d'un certain nombre de minutes de jeu, on change l'un des joueurs, on l'enlève de la pièce et on le remplace par une machine. Ce joueur que l'on remplace, c'est l'homme. D'accord ? Donc, il y a un ordinateur qui joue le rôle de l'homme, et l'interrogateur réussira-t-il ou pas à deviner qu'on a changé les règles du jeu et qu'il a affaire à une machine et non pas à un homme.
C'est ça qu'on appelle le test de Turing ?
C'est ça qu'on appelle le jeu de l'imitation, et qu'on a le tort d'appeler voilà. Le test de Turing, parce que d'abord il emploie très rarement l'expression de test, et ensuite si c'était un test, ça se saurait. Malheureusement, il n'y a pas de test effectif, qui permettrait de détecter la différence entre un homme et un ordinateur. Donc voilà ce que c'est que le jeu de l'imitation. Il faut dire aussi, moi je crois, il faut aller jusqu'au bout de la logique de Turing, c'est un pur exemple imaginaire qui ne cherche pas à être réalisé.
C'est un exercice de pensée.
C'est un exercice de pensée, parce que on voit bien que si le lecteur est convaincu que effectivement, au bout du compte, on ne peut pas distinguer l'ordinateur et l'être humain, on voit bien que le lecteur, lui, doit conserver cette différence, parce que sinon on n'arriverait même pas à monter un jeu. Donc le lecteur est dans une position très ambiguë, dans laquelle à la fois il doit s'identifier à l'interrogateur et donc reconnaître finalement que l'interrogateur est en échec, tout en étant à l'extérieur du jeu et en continuant à faire la différence entre un homme et un ordinateur, ou entre un homme et une femme dans le cas de la première partie du jeu. Donc voilà, il y a cette position-là qui est extrêmement ambiguë et qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas devenir un test.
Alors Jean Lassay, dans votre livre intitulé Turing, vous dites que pour comprendre Turing, il faut s'attacher à trois articles essentiels. Un premier en 1936, dans lequel il fonde la théorie de la calculabilité. Un autre en 1952 sur la morphogénèse. Et puis entre les deux, il y a ce fameux article philosophique de 1950 dont vous parliez. Alors avant d'arriver à cet article de 36 de Turing, j'aimerais qu'on parle du contexte scientifique de l'époque avec les travaux de Hilbert et Newman. Écoutez un extrait de l'excellent film La drôle de guerre d'Alan Turing de Denis Van Verbeek, produit par les films d'ici.
He was attending some lectures in St. John's College. The lectures were on the foundations.
Turing assistait à des cours magistraux à St. John's College sur les fondements des mathématiques. Ces cours étaient donnés par Max Newman, qui expliquait à ses étudiants un problème récemment posé par David Hilbert. Hilbert était un mathématicien allemand renommé. C'était le pape des mathématiques à cette époque. Et dans les années 20, il avait posé un problème absolument essentiel pour les fondements des mathématiques, le problème de la décision.
Voilà, alors comment Turing se nourrit de ses travaux et comment on arrive au fameux article de 1936? Turing n'a que 24 ans. Qui veut répondre? Jean Lassaigne.
Oui, Turing est très jeune à cette époque. Il suit les cours de Newman, qui est un professeur de topologie. Mais ce faisant, il a une partie de son cours qui traite de théorie des ensembles. Et c'est la raison pour laquelle il est au courant des grands problèmes posés par Hilbert. L'extrait semble dire qu'il n'y avait qu'un seul problème. En fait, il y en a plusieurs. Bon, et il y en a un, effectivement, qui est le problème de la décision. Donc c'est celui-là que Turing va essayer de résoudre. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il va résoudre ce problème par la négative. C'est-à-dire qu'il fait un théorème d'impossibilité. Il y a un certain nombre de problèmes qui ne peuvent pas être résolus par voie de calcul, par voie algorithmique. Voilà. Donc l'intérêt de l'article de Turing est celui-ci. Il arrive à poser finalement un champ qui est le champ du calculable, ce qui relève du calcul, et ce faisant aussi, pour réussir à tracer les limites de ce champ, il montre qu'il y a des problèmes qui sont incalculables. Voilà. Donc en étant des deux côtés de la frontière, on arrive à délimiter ce champ qui porte sur le calculable. Et pour réussir à délimiter cette frontière, il faut résoudre le problème de la décision, savoir dans le cadre d'une axiomatique formalisée à la Hilbert, bon, ça devient un peu technique.
C'est un peu compliqué. Oui.
Voilà, il faut réussir à savoir si oui ou non on peut savoir si les propositions que l'on arrive à produire à partir des axiomes sont toutes décidables ou pas, savoir si on peut savoir leur valeur de vérité. Voilà. Bon. Et Turing montre, par un raisonnement relativement simple, qu'on peut essayer d'expliciter, c'est que si vous faites une liste des propositions en question, à un moment donné, dans cette liste, il y aura l'algorithme même qui permet de produire la liste. Et donc, il y a une espèce de cercle vicieux qui se fait, et il y a au moins un problème qui devient inaccessible. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on peut délimiter un champ dans lequel tous les problèmes sont au moins en droit accessibles par voie algorithmique. Et puis, on peut réussir à exhiber un problème qui ne l'est pas.
Autour de la question « Pourquoi Alan Turing ?», nous allons nous intéresser aux activités de Turing pendant la Seconde Guerre mondiale, juste après Rodolphe Burger et Yves Dormoy, Alan Turing sur RFI.
Messages from the unseen world, of a starlight. Messages from the unseen world, of a starlight. Hyperboloids of wondrous light, rolling for age through space and time, harbor those waves which somehow might. Message number three. The universe is the interior of the light cone of the creation. Message number four. Science is a differential equation. Religion is a boundary condition. Message number six. Particles are found. Message number six. Thank you.
Rodolphe Burger, Yves Dormois, Alan Turing sur RFI. Vous avez reconnu les paroles en anglais de cette chanson Jean Lassalle, La Monique Une.
Oui, effectivement, c'est les dernières cartes postales envoyées par Alan Turing à Robin Gandhi, qui était un de ses élèves puis amis, qui porte effectivement sur une espèce de philosophie de la science.
Alors, en 1938, je disais tout à l'heure, Alan Turing est recruté par les services secrets britanniques et non pas par l'armée. Il se retrouve à Bletchley Park, qui est une petite ville au nord de Londres, où est menée une bataille théorique, on peut appeler ça comme ça, pour casser les codes allemands et de la redoutable machine Enigma. Je voudrais vous faire écouter la voix de Jack Copland, professeur de philosophie à l'université de Canterbury en Nouvelle-Zélande. Et c'est un autre extrait du film « La drôle de guerre d'Alan Turing » de Denis Van Verbeek.
Bletchley Park was the scene of the most incredible code-breaking operation in the whole of human history.
Bletchley Park a été le théâtre de la plus incroyable opération de décryptage dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois, et peut-être la dernière, que l'un des camps a eu potentiellement accès à toutes les communications militaires secrètes de l'adversaire. Ici, à Bletchley Park, la quantité de détails et d'informations qu'ils ont réussi à obtenir à partir des messages codés allemands est absolument stupéfiante. Le genre de personnes qui ont travaillé ici et qui ont fait le succès de Bletchley Park n'auraient jamais été recrutées par une organisation militaire en Allemagne. Ici, il y avait des homosexuels, des juifs, des anarchistes, des libres penseurs. Et tous ces talents se sont combinés dans ce creuset profane, indépendant et génial qu'a été Bletchley Park.
Pierre Mouniécune, commentaire sur ce que vient de dire Jack Copland.
C'est vrai pour l'essentiel. J'ajouterais plusieurs petites choses. D'abord, Enigma est une machine qui n'était pas secrète et qui n'était pas d'avant-garde. C'est une machine, une sorte de machine à écrire perfectionnée qui changeait les lettres, qui avait été développée au début des années 20 pour les banques et qui avait été dans le commerce. Sa technologie était une technologie tout à fait établie depuis 1900, quoi. C'était une machine à écrire électrique. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'elle permettait de produire à partir d'un simple texte plusieurs milliards de combinaisons possibles. Donc elle était réputée très sûre pour crypter des communications secrètes. Elle avait été attaquée, cette machine Enigma, bien avant Turing, par les Polonais et par les Français. Les services de décryptage polonais ont été les premiers à avoir l'idée de recruter des mathématiciens et de faire travailler des mathématiciens qui ont analysé l'architecture logique et le fonctionnement logique de la machine Enigma. Ils ont fini d'ailleurs par voler une Enigma militaire allemande. Et en 39, ils collaboraient avec les services secrets français qui, eux, avaient un agent de renseignement au sein de l'état-major allemand. Donc les franco-polonais arrivaient à lire les messages Enigma pratiquement au jour le jour. Et c'est en France que Turing et un de ses supérieurs sont venus s'informer sur l'état de l'art en matière de cassage de code Enigma fin 1939. Et à partir de là, surtout après la chute de la France, les Anglais se sont retrouvés tout seuls face à une machine Enigma que les Allemands perfectionnaient tous les 3 ou 4 mois. Ce qui fait que tous les 3 ou 4 mois, les Anglais ne comprenaient plus rien aux messages qu'ils recevaient, qu'ils interceptaient. Et il fallait tout recommencer à zéro et pendant ce temps-là, les sous-marins allemands coulaient à qui mieux mieux des convois anglais.
On va continuer à parler de la machine Enigma et de la guerre, de la drôle de guerre d'Alan Turing. Juste après les informations, Jean Lassalle, Pierre Mouniécune, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes sur RFI.
Sophie Joubert.
Autour de la question « Pourquoi Alan Turing ?» avec Jean Lassaigue, auteur d'une biographie de Turing parue aux Belles Lettres en 2003, et Pierre Mounier-Kuhn, historien et notamment spécialiste de l'histoire de l'informatique. Alors, on parlait avant les informations du décryptage de la machine Enigma par Turing et l'équipe de Bletchley Park. Écoutez, June Valentine, elle était opératrice pendant la guerre, chargée de scripter les messages codés allemands, et elle est aujourd'hui guide à Bletchley Park et devenue un musée.
This machine, invented by Alan Turing, is called a bomb. B-O-M-B-E.
Cette machine, inventée par Alan Turing, s'appelle une bombe, B-O-M-B-E. Elle est conçue pour rechercher la configuration des rotors de la machine Enigma. Ça, c'est l'équivalent de 36 machines Enigma. 1, 2, 3, 12 dans chaque rangée, et 3 fois 12 égale 36.
These drums, they're called, rotate.
Ces tambours, comme on les appelle, tournent et sont en contact avec le commutateur du tableau arrière. Il y a 4 petites brosses pour chaque lettre. Les lettres sont tout autour et chacune de ces petites brosses possède 19 filaments. Ce sont ces brosses qui font la connexion avec le commutateur du tableau arrière.
When it stops, as it will from time to time, there will be letters pointed out.
De temps en temps, la machine s'arrête et des lettres apparaissent sur ces tambours et ce sont elles qui indiquent la configuration trouvée. On transmettait ces informations par téléphone et à l'époque, je ne savais pas du tout où j'appelais. Mais quand je suis devenue guide ici, il y a 15 ans, j'ai découvert que l'information traversait juste l'allée pour aller 10 mètres plus loin. Je ne savais pas où j'appelais. Et ceux qui répondaient ignoraient d'où je les appelais. Parce qu'ici, le secret était la règle absolue. Vous ne parliez jamais de votre travail à l'extérieur, du bâtiment où vous étiez employé. Vous n'en parliez à personne. Pas même à vos proches, à votre mari, à votre petite amie ou à vos parents. Jamais. On nous avait dit de ne pas en parler, donc on n'en parlait pas.
You were told not to speak, so we didn't.
Alors, quel est le réel apport d'Alan Turing dans cette histoire? Alors, il faut dire qu'il a contribué à perfectionner énormément la technologie des Polonais, mais dire aussi qu'il n'a pas inventé à cette période-là d'ordinateur. Cette machine n'est pas un ordinateur.
Non.
Pierre Mounier-Kuhn.
Il y a toute une mythologie qui s'est créée depuis une vingtaine d'années autour de Turing, et autant j'admire Turing, autant je consacre une partie de mon travail à critiquer cette mythologie. Par exemple, l'article de 1936 d'Alan Turing ne concerne pas du tout l'invention de l'ordinateur. Il essayait de résoudre un problème de logique mathématique, c'est-à-dire la partie la plus abstraite des maths. Il a construit plusieurs machines ensuite qui n'étaient pas des machines de Turing. La bombe n'est pas une machine de Turing. Turing ne s'est attelé à la construction d'un ordinateur qu'en 1946, une fois revenu à la vie civile. Ce qu'il faut dire, c'est que la bombe avait été d'abord développée par les Polonais et les Français. Et ensuite, Turing et les autres, ça, il faut insister là-dessus, c'est un travail d'équipe. Ils ont considérablement perfectionné la bombe pour répliquer à la montée en puissance et en complexité de la machine Enigma que les Allemands rendaient de plus en plus difficile à casser.
Jean Lassaigue, il y a vraiment deux périodes dans le travail de Turing pour casser les codes d'Enigma et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le point central, c'est le voyage secret qu'il fait aux États-Unis en 1942-1943.
Oui, alors effectivement, il part aux États-Unis une fois que finalement c'est mis en place ce décryptage des codes. Il est peut-être consultant sur le projet de Los Alamos, donc sur le projet de la bombe atomique, on ne sait pas très bien. Et puis, il fait surtout la première fois, il fait surtout l'expérience de la technologie électronique. Et ça, évidemment, ça va beaucoup lui servir. Il rentre en Angleterre et il va faire, pendant la deuxième partie de la guerre, une machine à crypter la voix humaine en se basant sur la technologie électronique qui, elle, sera tout à fait importante pour la réalisation de l'ordinateur à proprement parler, à partir donc de 46 après la guerre. Je voulais juste faire une petite remarque peut-être sur l'article de 1936, puisque comme Pierre vient de le dire, ça n'est pas exactement un ordinateur, mais il y a dans l'article de 36, pour la première fois, il y a l'idée quand même que on peut résoudre un problème mathématique grâce à une machine. Donc le vocabulaire de la machine se met en place, et il y a bien, c'est d'ailleurs comme ça qu'on va décrire cet article dès sa parution, il y a bien dans l'article une machine de Turing.
Encore, la machine de Turing, c'est un exercice de pensée.
Ouais, enfin, c'est un exercice de pensée au sens où ça n'est pas une réalisation matérielle, pas du tout, hein, et ça ne donne aucune indication sur comment faire marcher cette machine. Hein. Il n'empêche que il y a une tête de lecture, il y a un ruban, il y a des signes inscrits sur ce ruban, etc. Donc il y a bien quelque chose comme une espèce de plan abstrait, hein, qui servira ensuite, après la guerre, hein, pour la construction proprement dite de l'ordinateur.
Alors, un des points importants pour bien comprendre la pensée de Turing, c'est de savoir comment il a pensé les relations entre l'homme et la machine et l'autonomie des machines. Écoutez un texte de Turing lu par le comédien Pierre Meunier. C'est un autre extrait du film La drôle de guerre d'Alan Turing.
Il est d'usage, quand on évoque ce sujet, de rassurer les auditeurs en affirmant que telle ou telle caractéristique humaine ne pourra jamais être imitée par une machine. On affirme par exemple qu'une machine ne saura jamais écrire, ou qu'elle ne sera jamais sensible au sex appeal, ou ne fumera jamais la pipe. Je ne peux pas vous offrir un tel réconfort, car je considère qu'aucune limite de ce genre ne peut être fixée.
Réaction sur ce texte, Jean Lassègue ?
Alors d'abord, je voudrais faire remarquer que dans les textes de Turing, il y a souvent beaucoup d'humour. Et il faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à le prendre très au sérieux. Et on voit là que, bon, une machine qui fume la pipe, bon, qui a du sexe à pile, bon, tout ça est plutôt drôle. Et donc il faut jamais l'oublier quand on lit ces textes. Bon, par ailleurs, il pose effectivement une vraie question, hein, savoir les limites algorithmiques de la pensée. Hein. Bon, ça c'est la vraie question. Et à partir de ces années-là, hein, 46-50, la vraie question va être celle-ci. Est-ce qu'une machine, comme l'ordinateur, qui est une machine déterministe et qu'on va pouvoir réaliser physiquement dans la nature, peut imiter n'importe quel processus mental de l'homme ? Oui ou non ? Et en fait, dans l'article de 1950, la question reste ouverte. Elle n'est pas résolue. Elle reste ouverte, hein, puisque Turing sait très bien, après les travaux de Poincaré, que la physique n'est pas déterministe dans le sens d'une machine déterministe comme la sienne. Donc il y a bien un problème dans la façon de réaliser matériellement cette machine est bien déterministe, mais la nature ne l'est pas. Et donc, il faut bien se rendre compte que Turing ne cherche pas à réduire finalement l'intégralité de la physique à une machine déterministe. Hein. Il sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il y a un problème. Et ce problème, c'est quoi ? Ben, c'est les formes vivantes. Mais on en parlera peut-être.
Alors, on va passer à la morphogenèse. Pierre Mounet-Kuhn, un mot de commentaire sur ce texte qu'on a entendu ?
Oui, pas forcément sur ce texte lui-même, mais bon, là on est vraiment dans l'admiration pour Turing d'une part, parce que dans l'histoire des sciences, il y a pas beaucoup de personnages qui ont réussi trois domaines scientifiques. Voilà. En l'occurrence, la logique mathématique avec l'article de 1936, les systèmes de calcul et de traitement de l'information, de pensée artificielle avec les différentes machines et la question des formes vivantes, la question de pourquoi une cellule indifférenciée donne naissance ensuite à des cellules aussi différenciées que les taches de léopard, etc.
Voilà, on va en parler tout à l'heure. Non,
mais l'autre chose que je voulais dire, et l'autre chose qu'il faut admirer dans toute cette histoire, c'est la qualité des grandes organisations collectives qui ont permis à un Turing d'exprimer son génie, qui ont créé les conditions de possibilité. Et c'est les grandes universités, Cambridge, Princeton, Manchester et Bletchley Park. Contrairement à ce que montre le film Imitation Game.
Voilà. Voilà, oui, Turing n'était pas un génie isolé.
Voilà, c'était un travail d'équipe, très bien organisé, avec un mélange de disciplines de fer sur le secret et de très grande liberté pour inventer et au fond pour être efficace pour vaincre l'ennemi.
Mais Jean Lassaigue, si on prend la pensée de Turing, ce qui est important, c'est de comprendre que tout est global, qu'il ne faut pas se dire que ses recherches sur la morphogénèse ou l'intelligence artificielle, ce sont des appendices. En fait, tout forme un tout extrêmement cohérent.
Voilà, moi je crois qu'il y a une très grande cohérence dans la pensée de Turing, que les trois articles que vous mentionnez forment effectivement un tout. Hein, et que, de ce point de vue-là, il est toujours très dommage de passer la fin de sa vie et de ses recherches en morphogénèse sous silence, comme on le voit souvent, et comme c'est le cas, par exemple, dans le film dont vous parliez tout à l'heure. Au contraire, moi, je crois que la question que Turing se pose à la fin de sa vie, c'est bien comment réussir à faire émerger des formes à partir donc d'un substrat matériel indifférencié, comment cette chose-là est possible, de la même manière que faire émerger le concept de machine de Turing a été pour lui l'histoire de sa vie. Voilà. Donc je crois qu'il y a quelque chose en commun entre ces trois articles, à la fois du point de vue de la logique mathématique quand il s'agit de faire ce qu'on appellera ensuite le plan de l'ordinateur, finalement, qui est cette machine de Turing, le fait ensuite que, grâce à un travail technologique, il arrive à construire un ordinateur, matériellement, bien, et ensuite qui se demande, mais comment se fait-il que des formes puissent émerger d'elles-mêmes de la nature, hein, sans qu'on les aide, sans créateur.
Voilà, les formes, l'émergence des formes et la morphogénèse, on va justement en parler juste après Catherine, Êtres humains sur RFI.
Qui est cet être humain-là à côté de moi, qui chante exactement les mêmes mots que moi, même si sa bouche n'est
Êtres humains sur RFI. Alors, la morphogénèse, c'est la naissance des formes, justement, aussi bien chez les êtres humains que chez les plantes, hein, c'est la phylotaxie. Le pionnier de la morphogénèse est le biologiste Darcy Thompson, qui publie en 1917 sur la croissance et la forme. Alors, qu'est-ce que la morphogénèse selon Alan Turing? Écoutez le mathématicien Henri Beresticky, c'était sur France Culture en 1987.
On s'intéresse à la question de savoir d'où naît l'hétérogénéité dans le vivant. C'est-à-dire, si on prend la peau d'un animal, comment se fait-il qu'à partir d'un, par exemple, d'une pigmentation qui serait uniforme, on a apparition de taches ou de rayures, de zébrures? Mais cela pose aussi de façon presque, je dirais, en amont, c'est qu'est-ce qui fait que dans un embryon humain, qui au départ est une sphère de cellules indifférenciées, tout d'un coup, c'est ce qu'on appelle la gastrulation, apparaît un sillon qui va séparer en deux, puis il y aura une nouvelle séparation, et ainsi de suite, qui vont donner naissance à partir de ces cellules indifférenciées à des cellules extrêmement différenciées, qui donnent lieu ensuite à une tête, à des bras, des jambes. Et donc, il s'intéresse vraiment, je dirais, à une question fondamentale, donc c'est l'embryogenèse. Une question fondamentale dans le vivant, c'est qu'est-ce qui fait qu'à partir de cette chose indifférenciée se construit la différenciation. Et il propose, il a cette idée d'utiliser un modèle mathématique très simple, pour rendre compte de ça, c'est un modèle mathématique qui repose sur deux équations aux dérivées partielles, donc deux équations qui concernent deux grandeurs chimiques. Il isole un rôle qui serait joué par deux substances chimiques particulières qu'il appelle des morphogènes. Deux morphogènes, un activateur et un inhibiteur de certaines réactions. Et il a cette idée extraordinaire, vraiment, que avec les simples mécanismes de diffusion, donc ces substances chimiques diffusent et réagissent entre elles, à partir de ces simples mécanismes, on peut arriver à rendre compte de l'apparition de structures hétérogènes dans un milieu complètement homogène, à condition d'être dans un régime où l'inhibiteur diffuse plus rapidement que l'activateur. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Voilà, on le disait tout à l'heure, Turing écrit sur la morphogénèse en 1952. Alors, est-ce que ce modèle mathématique est aussi simple que ce que semble le dire Henri Bérestiki, Jean Lassaigne?
Oui, enfin, c'est pas très simple, hein, la lecture de
c'est
l'article.
C'est quand même pas très simple.
La lecture de l'article est pas très simple. Mais ce que je voudrais dire, surtout, c'est que quand on parle de morphogenèse, on a l'habitude d'entendre programme génétique. Et c'est exactement à cette période-là qu'on commence à parler de programme génétique. Justement, Turing ne va pas dans cette direction-là. Mmh. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que le père de l'informatique s'interroge sur le vivant de cette manière-là. Or, précisément, il ne le fait pas. C'est-à-dire que il ne part pas de l'idée qu'il y aurait une espèce de code primitif qu'il faudrait combiner et qui permettrait de faire émerger des formes variées. Hein. Lui, il essaye de penser le code lui-même. Mmh. C'est-à-dire l'apparition du code lui-même, l'apparition de ses formes et la variabilité possible de ces formes. Alors le modèle tel que Henri Bérestiki le décrit, effectivement un modèle relativement simple puisqu'il s'agit simplement de deux substances, disons on les plonge dans un même bac et elles se diffusent avec des vitesses différentes et en se mêlant donc apparaissent à ce moment-là des formes relativement stables au moins pendant un certain temps. Voilà. Donc il y a une stabilité de forme qui apparaît à partir d'un substrat qui à l'origine n'a pas de forme justement.
Pierre Mouniacune, si on fait des mathématiques et qu'on essaie d'être assez simple, la morphogénèse appliquée aux plantes, c'est par exemple un chou romanesco qui reproduit une suite de Fibonacci.
Oui, en fait, bon, c'est un problème qui est très complexe, mais tout le monde peut comprendre au moins des questions fondamentales que s'était posé Turing depuis son adolescence. Quand vous regardez une pomme de pin, par exemple, ou une coquille d'escargot, vous voyez des formes qui sont régulières. Et non seulement elles sont régulières, mais elles correspondent très exactement à des suites régulières de nombres, qu'on appelle les suites de Fibonacci, que vous trouverez ça sur Internet très facilement, et chacun peut les dessiner, chacun peut les reproduire. Et Turing s'est demandé pourquoi des formes naturelles correspondent, sans que l'homme et sans qu'aucun mathématicien ne soit intervenu dans l'invention des escargots, pourquoi ces formes naturelles correspondent à des suites mathématiques. Et seulement lui, il a essayé de creuser ce que je suis incapable de faire.
Alors, on n'a pas beaucoup parlé de la vie privée d'Alan Turing. À la fin de sa vie, il va être poursuivi par la justice à cause de son homosexualité. Mais au fond, comment les renseignements sur sa vie privée, et pas seulement cette partie-là, peuvent nous aider à comprendre son cheminement intellectuel? Vous abordez ces choses-là dans votre livre, Jean Lassaigne.
Oui, je pense que c'est quand même pas un hasard que le jeu de l'imitation porte sur la notion de différence sexuelle d'abord et de dépassement de la différence sexuelle, puisque le jeu de l'imitation consiste précisément en ceci, de dépasser la différence entre homme et femme. Une fois que cette différence est dépassée, alors il y a finalement une espèce d'identification possible entre les humains d'une part et la machine de l'autre. Au moins, on peut lire le jeu d'imitation comme ça, même si moi je fais remarquer que c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Donc il y a très certainement une composante personnelle hein, dans ce jeu. Une composante personnelle qui est étonnante quand on sait que il sera finalement interrogé par la police d'abord et la justice ensuite sur sa sexualité, puisque finalement la question qu'il pose dans le jeu de l'imitation, c'est la question qu'on va lui poser. Homme, femme, qu'en est-il? Cette castration chimique, elle consiste à recevoir des injections d'hormones féminines. Voilà, donc il y a là quelque chose qui va jouer sur sa sur sa vie, sur sa recherche, hein, puisque je crois que c'est un moment d'intense désespoir chez lui.
Et puis, il faut citer un personnage très important dans cette histoire, c'est Christopher Morcombe, son ami de collège, d'enfance et d'adolescence, avec qui il a commencé à s'intéresser à la cryptologie. Et ce garçon, qui est mort très jeune, hein, de la tuberculose bovine, est resté vraiment très très présent dans l'esprit d'Alan Turing.
Oui, on a des textes là-dessus qui sont tout à fait étonnants, hein, des textes qui sont des textes de métaphysique à proprement parler, hein, où Turing écrit à la mère de ce jeune homme et lui dit mais il est mort, mais je vais finalement le remplacer, hein, c'est-à-dire que je vais l'incarner et je vais réussir à mener à bien la carrière scientifique qu'il aurait dû mener lui. Donc cette idée de séparation entre le corps et l'esprit, entre le hardware et le software,
oui, hein, oui.
Elle est présente chez lui de façon extrêmement profonde. Hein, et il l'a vraiment vécu, hein, au moment de la mort de ce camarade dont il était amoureux d'ailleurs, dont il ne se cachait pas d'être amoureux. Mmh.
Ça, on le voit aussi dans le film The Imitation Game. Pierre Monécule, dans quelles conditions Alan Turing est-il poursuivi par la police britannique? Comment ça se passe et pourquoi, au fond, pourquoi on l'ennuie tant que ça alors qu'il a été un héros de guerre?
Non, personne ne sait qu'il a été un héros de guerre. C'est ça, le drame est là. Et malheureusement, le film The Imitation Game ne le montre absolument pas. Au contraire, le film montre Turing racontant la cryptanalyse et Bletchley Park aux policiers qui l'interrogent. Or, le vrai drame, la vraie grande tragédie de la vie de Turing, c'est qu'il est poursuivi pour un fait divers où il est venu expliquer à la police qu'il a été cambriolé par un amant d'un soir, et il ne peut pas faire valoir les services immenses qu'il a rendus au monde libre pendant la guerre. Donc, c'est un maître de conférence qui est arrêté pour un délit sexuel. L'homosexualité était un délit en Grande-Bretagne, ce qu'elle n'était plus en France depuis la Révolution française. L'homosexualité est restée criminal offense jusqu'en 1967.
Il lui est arrivé la même chose qu'à Oscar Wilde, au fond.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que après l'affaire Oscar Wilde, donc à la fin du 19e siècle, jusqu'à l'époque de Turing, les autorités anglaises s'étaient peu préoccupées des questions d'homosexualité, on n'avait plus poursuivi les gens. Et vers 1950, il y a une série de scandales qui éclatent et qui mettent en cause des hommes qui ont été d'anciens élèves de Cambridge, qui sont homosexuels et qui ont travaillé dans les services secrets. Et donc le contre-espionnage fait son métier, c'est-à-dire qu'il fait du profilage. Et toute personne qui a à peu près ce profil devient automatiquement suspecte. Donc les autorités du contre-espionnage ne sont pour rien dans l'arrestation de Turing, mais elles vont pas bouger, elles vont pas intervenir discrètement auprès de la justice pour dire « attention, ce type-là est un héros, ne le condamnez pas ». Elles vont le laisser tomber.
Alors il faudra attendre 2009 pour que le Premier ministre britannique Gordon Brown fasse des excuses au nom du gouvernement. Et il faudra attendre 2013 pour que la reine Elisabeth II le gracie à titre posthume. Écoutez le programmateur anglais John Graham Cumming qui était l'initiateur de la pétition en faveur de la réhabilitation d'Alan Turing.
J'ai lancé la pétition en août 2009 et quelques semaines plus tard en fait, 32 000 personnes avaient signé. Parmi eux, des gens très connus et des gens pas reconnus du tout. Et début septembre, je regarde mes mails, il y avait une mail qui disait « Est-ce que vous pouvez appeler la résidence du Premier ministre, le fameux Number 10 Downing Street, avec urgence, ce soir ?» Et j'ai appelé, et en fait, j'ai parlé avec un conseiller, et il a fini par me dire « Gordon veut vous parler ». Quelques minutes plus tard, mon portable a sonné et c'était le Premier ministre. Déjà, il m'a remercié parce qu'il pensait que c'était une histoire importante et qu'on ne parlait pas d'Alan Turing. Et en fait, il m'a dit qu'il ne connaissait pas l'histoire du tout. Parce que, bien sûr, Alan Turing était connu par les informaticiens et dans certains milieux gays, mais c'était pas une histoire qui était connue par tout le monde. Et en fait, quand j'ai commencé la pétition, je pensais que Alan Turing était un des grands Britanniques. Il fallait parler de lui plus, et bien sûr, la fin de sa vie aussi.
Alors Alan Turing s'est suicidé en 1954 en mangeant une pomme empoisonnée comme dans Blanche-Neige. Oui, beau symbole.
C'est un symbole, effectivement, puisque c'est un film qu'il avait vu quand il était étudiant à Princeton, et il avait été absolument fasciné par ce film. C'est sans doute le seul lien qui le relie à Hitler, puisque Hitler s'était dit, il faut se méfier de ces Américains qui arrivent à faire des films pareils. On pourrait avoir des ennuis avec eux. Effectivement, donc dans ce film, il y a une pomme qui est plongée dans un bain de cyanure et que la sorcière, la belle-mère, fait goûter à Blanche-Neige. C'est sa méthode de suicide. On peut effectivement penser qu'il s'agit d'un accident. Au moins, je suppose que c'est la façon dont il a eu de protéger sa mère, qui était vivante, et qui n'a jamais vraiment accepté la thèse du suicide.
Il y a un doute sur
il y a des débats.
On est sûr qu'il y a un doute.
On est sûr qu'il y a un doute. Alors, on va rester sur ce doute. Merci beaucoup, Jean Lassec. Je rappelle que votre livre Turing est publié aux éditions des Belles Lettres. Pierre Mouniécune, je renvoie à vos articles sur Turing. Et puis, vous êtes venu avec une bande dessinée qui s'appelle Logicomics. De quoi s'agit-il?
Logicomics, c'est une bande dessinée qui a été écrite par un groupe de dessinateurs, de bédéistes et de mathématiciens grecs. Et qui raconte l'histoire de la logique mathématique depuis le 19e siècle jusqu'à Turing et jusqu'à nos jours. C'est admirablement fait et tout le monde peut comprendre ou avoir l'impression de comprendre les arcanes de la logique mathématique.
Et c'est publié chez Viber. Merci à tous les deux, un grand merci à Cécile Bonici.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Et je vous retrouve toute la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons des liens entre science et théâtre et de la recherche de la vie sur d'autres planètes. À lundi!